Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Nous sommes avec Jennifer Jean-Philippe, dirigeante de l'entreprise JP Spiritueux, située à Boulazac-Île-Manoir. Jennifer, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bien sûr. Donc, je suis Jennifer Jean-Philippe, donc dirigeante de l'entreprise JP Spiritueux. J'ai 40 ans et je suis maman de deux enfants et mariée à Jérôme Jean-Philippe.
À quel moment, Jennifer, tu t'es dit que tu allais créer quelque chose de toi-même ?
Alors honnêtement, déjà, je n'ai pas eu de moment où je me suis dit ça, parce que vraiment, je n'étais pas du tout dans l'optique de créer quelque chose. Pour retracer un peu, c'est plus une idée de mon mari de créer réellement ce produit. C'était voilà, un produit qui, il était déjà appétant de tout ce qui était sirop artisanal, mais ça, on reviendra un peu plus dans le détail après, et du cognac. Et puis voilà, il faisait ses petits tiponches version cognac. Et on avait besoin d'un changement de vie, mais on s'est dit, bah allez, on se lance dans une aventure. Mais c'était vraiment pas, on pensait vraiment pas que ça allait devenir ce que c'est maintenant.
Et alors, qu'est-ce que tu faisais, toi, avant de créer cette entreprise ?
Alors, tous les deux, on était agents de la fonction publique. Donc, moi, je travaillais, du coup, j'étais instructrice APA au conseil départemental de la Dordogne. Donc, je m'occupais vraiment du suivi administratif et de l'instruction administrative des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées. Et mon mari était donc éducateur spécialisé. Et donc, pendant un petit moment, on a pu un petit peu cumuler les deux. Et on a créé donc l'entreprise en 2019, et deux mois avant le Covid. Et sorti du Covid, et ben on s'est dit, allez, on se met d'abord en dispo. On a fait une petite dispo vraiment sur quelques mois et on s'est rendu compte que vraiment c'est ce qui nous plaisait. Donc on a démissionné pour laisser nos postes vacants.
Et le Covid ne vous a pas effrayé dans le fait de devenir chef d'entreprise ?
Au contraire, je pense qu'il nous a rassurés. Disons que, au début, on a pu... Ça a été hyper violent, en fait, hein, parce que c'est vrai que nous, on s'est lancé... Donc, l'entreprise a été créée en mai 2019. On a commencé à commercialiser en novembre 2019. Et là, bam, quelques mois après, donc on fait un super, super fin d'année avec des marchés Noël, tout ça. On se rend compte que le produit plaît. Quatre mois plus tard, on arrête tout, on coupe tout. Et en fait, on a eu le droit de continuer d'exercer. On avait pu faire une grosse production, donc on avait le droit de livrer. Donc, c'était assez sympa parce qu'on avait des retours beaucoup plus cosy, beaucoup plus... les gens prenaient le temps de nous répondre par rapport au produit, de nous dire de leur retour, en fait, tout simplement. Et ça nous a énormément confortés dans le fait que ce produit plaisait. Et c'est pour ça, et du coup, au contraire, quoi, on a pu vraiment travailler en off là-dessus et développer plein de choses, le packaging, un petit peu développer tout ça et sorti du Covid, on s'est dit bam, c'est maintenant.
Et alors, quand vous démarrez votre activité en 2019, comment vous trouvez vos clients ? Comment vous vous faites connaître ?
Alors, beaucoup les salons et les foires. C'est vrai qu'on part beaucoup. Bon, alors c'est vrai que du coup, au départ, on part un peu sur du local. Donc à l'époque, on pouvait encore faire de la livraison. Enfin, on pouvait encore faire. On avait fait le choix de faire encore de la livraison aux particuliers. Donc on livrait dans un périmètre autour de Périgueux, Boulazac, tout ça, puisque notre point était dès le départ Boulazac. Donc c'était du bouche à oreille, tout ça, et puis des salons. Ouais, pas mal de salons, des gros salons. D'ailleurs, au départ, on est parti très vite sur des gros événements.
Et alors, donc du coup, en 2019, vous êtes deux. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu reprends la gérance de cette entreprise. Comment ça se fait ?
Alors, du coup, en 2019, donc on est deux lors de la création. Alors même au départ, il n'y a que Jérôme qui vraiment, puisque lui, il avait un cumul d'activités accepté par le département. Donc au départ, il est tout seul. Moi, je suis juste conjoint collaboratrice. On fait ça 2019, 2020, 2021, 2022. Entre-temps, on change de statut, on part de la micro, on passe en entreprise individuelle. Jusqu'en 2023. 2023, bon, là, on commence à avoir des charges beaucoup plus importantes puisqu'on produit plus. On se rend compte que c'est compliqué. On fait des levées de fonds, tout ça, enfin des emprunts, tout ça. Donc, on se rend compte que financièrement, c'est un peu compliqué à vivre à deux sur une entreprise, même voire impossible. Quand on est en conjoint collaborateur, c'est un statut qui est un peu particulier parce qu'en fait, on ne peut pas se rémunérer. On n'a pas le droit de retirer un seul euro de la société. Par contre, on règle des cotisations sociales. Donc, en fait, c'était quelque chose qui ne pouvait pas durer, en fait. Ouais. Donc, comme mon mari, lui, il aime bien son côté, c'est plus le côté créatif, vraiment la création du produit. Après, tout ce qui est développement, c'est pas le truc qui l'intéresse plus que ça. Et donc, c'était moi qui partais vraiment plus au contact des professionnels, des particuliers pour vendre le produit. Et il m'a dit, en fait, c'est ça. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est développer le produit. Il se sentait plus... c'est pas qu'il se sentait plus à sa place, mais il trouvait que son rôle était plus... plus trop le rôle premier au développement de l'entreprise. Et comme on ne pouvait pas vivre à deux dessus, bah, il s'est dit, bon, ben, moi, je repars en reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, il est enseignant de la conduite et fait de la prévention à la sécurité routière. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, c'est assez complémentaire avec mon boulot, du coup. Mais voilà, et donc, je suis passée à la gérance, il m'a donné le flambeau, en fait, tout simplement, et il m'a confié le bébé JP Spiritueux. Alors attention, hein, c'est toujours quand même, il est toujours derrière moi, moi, je le consulte tout le temps, on est quand même une équipe. Hein. J'ai souvent l'homme de l'ombre, parce que c'est ça, en fait, lui, il éponge bah, voilà, mes petits états d'âme, tout ça, mes petits questionnements, je prendrai jamais une décision toute seule. On en parle tout le temps ensemble. Avant.
Donc tu contrecarres un petit peu la citation qui dit que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Là, dans ton cas de figure, c'est un peu l'inverse.
Aussi, mais pourtant on a commencé en suivant la citation quand même. Oui, on a commencé comme ça. C'était Jérôme devant et puis voilà. Mais non, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est lui qui m'a donné le flambeau.
Qui te soutient.
Ouais, tout à fait.
Comment tu décrirais ton alambic à quelqu'un qui n'y connaît rien?
Alors, l'alambic, c'est donc une façon d'apprendre à consommer le cognac. Les gens aujourd'hui sont très réticents face au cognac. C'est quand même notre patrimoine français. Hein. Il faut savoir que le cognac aujourd'hui, 98% de la production française est exportée.
D'accord.
Donc, voilà. Donc nous, c'était ça. De toute façon, notre idée, c'était ça. C'est redorer le blason du cognac en France et le faire consommer par les Français. Donc du coup, alors c'est quoi? C'est l'adoucir, parce que les premiers échos sur du cognac, c'est tout de suite, oh là, c'est un alcool trop fort. Donc on passe de 40 degrés à 23,5.
Okay.
Ça, je t'expliquerai du coup après voilà, comment le procéder. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de le radoucir. C'est vrai que je pense qu'il y a aussi ce côté surfer un peu sur le côté cocktail, sur le côté un peu arrangé également, même si on n'est pas un arrangé, hein, faut vraiment pas faire d'erreur là-dessus. Mais voilà, c'est le radoucir avec des saveurs, avec du fruit, avec un petit peu de sucre, mais vraiment voilà, pas trop non plus, parce que l'idée, c'est de pas être une liqueur non plus. Et après, donc, disons, ouvrir le champ des possibles en matière de consommation. La personne qui aime faire des spritz, qui aime faire des mojitos, bah, on peut complètement le faire. On fait tout ce qui est French Mule, tout ça avec. Mais si on veut le consommer comme on consommerait un rhum arrangé, pas de problème. Ou un cognac pur en fin de repas, pas de problème. Voilà, c'est quelque chose de plus abordable, on va dire, en termes de degré d'alcool. Et pour autant, c'est moitié moins sucré que ce qu'il peut y avoir en tant que liqueur ou arrangé ou quoi que ce soit.
Alors, ouais, j'ignorais que le cognac était moins... pas consommé en France.
Ah,
parce que le whisky, à contrario, est plutôt prisé, non?
Oui, le whisky, le rhum, énormément. Whisky, gin.
Et on parle d'alcool fort.
Oui, tout à fait. Mais voilà, le cognac, ça a un côté un peu vieillot, ça a une image ouais, très très forte, alors qu'en fait, bah, on titre à 40, et il peut y avoir des rhums qui vont titrer à 50, ou des whiskies qui titrent voilà, beaucoup plus. Mais non, c'est comme ça.
Donc c'est un pari risqué que de se lancer dans un secteur de niche pareil.
Ouais,
j'imagine.
Ouais. On n'en avait pas totalement conscience au départ. Je pense que vraiment, on s'est dit. Je pense que quand on se lance, en fait, on sait pas, on apprend vraiment sur le tas parce que. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au départ, on s'est dit, allez, nous, l'idée, c'est de faire un peu. Alors vraiment, voilà, c'est de faire un peu. Pas comme le rhum, mais on s'est inspiré un peu bah, du sirop artisanal, des recettes des mamans de la maison, puisque c'était vraiment les recettes donc des mamans et des tantes de mon mari Jérôme. Et du coup, on l'a un petit peu radouci pour la rendre plus accessible au palais de tout le monde, cette recette de sirop. Et on l'a en fait additionnée à du cognac et des fruits, comme on ferait un petit punch un peu. C'est vraiment, c'est parti de ça en fait. Mon mari s'éclatait à faire son petit punch avec du coup son sirop artisanal et son cognac au lieu de mettre du rhum. C'est vraiment parti comme ça en fait.
Et est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver des exploitants en cognac et qu'ils acceptent de travailler avec vous?
Alors ça, on a eu vraiment une histoire juste fabuleuse là-dessus. De toute façon, notre histoire, elle a été faite que de rencontres. Je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que même aujourd'hui, on privilégie énormément les partenariats, tout ça, parce que je trouve qu'un produit, ça se crée avec des mélanges d'amour et d'envie. Et je pense que c'est complètement ça. En fait, nous, tout au début, quand on s'est lancé en 2019, donc on avait un domaine qui était donc, de la région Finbois, parce que nous, on avait choisi absolument un cognac de la région Finbois, en termes de cognac, qui est assez fruité, en fait, et qui s'associe très bien avec les fruits, l'assemblage des fruits et du sirop. Bah, au départ, donc, ils nous ont fait une première vente, donc super, voilà, une relation assez sympa, tout ça. Et puis, on fait une autre production, et puis lors de la production, on leur demande un peu de cognac en plus, et puis là, on voit qu'ils commencent à être distants, tout ça, c'est un peu bizarre, bref. Et puis, les personnes nous disent, non, mais en fait, on va continuer à faire que de l'eau de vie, on arrête de faire du cognac. Donc voilà, donc du coup, là, on dit, bon ben mince, on n'a plus de producteurs. Et ça, on est en plein Covid. Là, on se dit, on est mal. Là, on est mal. Alors, quand je dis Covid, c'est Covid libéré, hein. C'est pas le Covid, on était fermé, c'était la suite, voilà. Et donc, je commence à démarcher les producteurs de cognac pour pouvoir, donc toujours de la région Finbois, toujours à peu près les mêmes cépages, les mêmes lieux par rapport où on était et tout. Et donc, Là, j'appelle une personne, j'adore son site, j'adore son nom, il s'appelle Stéphane Brutus. Et là, je dis j'adore, je ne sais pas pourquoi, je vois l'image, tout de suite, feeling déjà en image, je l'appelle. Et puis au départ, bon, il me questionne un peu, ouais, j'aimerais en savoir plus, tout ça. Et puis il me dit, bon, franchement, on se rencontre. Il dit, on se rencontre, on voit. On se rencontre, on y va, on va le voir, on parle de notre projet et tout. Et en fait, il dit, mais pourquoi pas ? Il dit, moi, en fait, ça m'apportera pas plus, mais voilà, c'est, allez, on tente, quoi. Et donc, en fait, bah, voilà. Et maintenant, c'est devenu des amis.
Ah, génial.
On adore passer les week-ends là-bas, ils viennent ici, enfin voilà, on fait des trucs en Dordogne. Voilà, on est passé au-delà du bouilleur de cru, du coup. Et donc, vraiment, voilà, c'est pas que notre producteur de cognac, c'est également notre ami avec sa femme. Voilà, on est vraiment super proches tous les quatre maintenant.
Donc ça, c'est la première phase. Vous trouvez quelqu'un qui accepte de vous vendre son cognac pour pouvoir après le modifier finalement, parce que vous avez tout un processus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, c'est ça. Déjà, il faut bien appuyer sur le fait qu'il accepte de nous vendre le cognac, parce qu'en fait, il faut savoir qu'acquérir du cognac ou vendre du cognac, c'est quelque chose de très compliqué et très lourd en termes de tâches douanières. Donc des gens, des fois, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire tout ça, parce que vraiment, ça nécessite des documents administratifs électroniques, il y a plein de choses, il y a des accusés de réception à faire, que ça soit de mon côté, de son côté, enfin vraiment, ça, voilà, ça demande du boulot. Donc en effet, moi, quand je vais là-bas, je viens avec des dames Jeanne, puisqu'on préfère vraiment transporter le cognac en dames Jeanne. Donc j'y vais, donc en fait, déjà en début d'année, on voit un petit peu comment ça se passe sur le cognac, tout ça, on évalue un volume qu'il va nous falloir sur l'année, voilà, le type VSOP, tout ça. Il nous explique un peu les années, parce que nous, on a vraiment une traçabilité impeccable, donc on sait exactement les années, on a tout, les résultats d'analyse, tout ça. Et puis, je vais y aller, moi, environ, à titre professionnel, 5 fois environ dans l'année. Après, à titre perso, pas de problème, mais à titre professionnel, au moins 5 fois dans l'année pour récupérer du cognac. Et là, c'est soudé à eux, on a dans le temps, tout ça, hein, c'est très, 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 très réglementé. Et donc, une fois qu'on a récupéré le cognac, là, je le mets immédiatement en production. Donc, c'est-à-dire que nous, on se fournit auprès de la salle Ambraise pour nos fruits. Donc là, c'est pareil, on prévoit ça, on travaille vraiment en étroite collaboration avec ce primeur-là. C'est notre seul primeur, où du coup, on définit les moments de production, ce qui est vraiment le plus propice par rapport au calendrier saisonnier des fruits. On essaie vraiment de faire vraiment les choses bien. Et donc voilà, on récupère les fruits, on fait une première découpe des fruits et on fait une première macération avec le cognac. Pendant ce temps, on va créer en fait un sirop artisanal. Donc là, on a joué aussi par rapport à l'ajout de sucre, c'est qu'on a réduit notre taux de sucre pour faire une macération à base de fruits et d'épices, de façon à apporter une sucrosité, mais différente, une sucrosité naturelle, pour vraiment avoir au final, être à moins de 100 grammes de sucre au litre. C'est vraiment le palier pour ne pas être une liqueur, tout simplement.
D'accord.
Voilà. Et ça s'est fait naturellement. Vraiment, au bout des premiers tests, on s'est rendu compte qu'on était à 80 grammes. On s'est dit, top, nickel, c'est bon, on touche rien. Et donc, voilà. Et après, il y a une macération et un assemblage avec ce sirop artisanal. On va avoir un temps de macération à mi-chemin. Donc, au bout déjà d'un mois et demi, ça a commencé déjà à bien travailler. Alors ça aussi, il faut gérer par rapport à la température extérieure, tout ça. Si c'est en été, si c'est en hiver. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, parce qu'en été, on peut très bien avoir une macération qui se réduit à un mois et demi, surtout pour le citron vert, où très vite, ça va arriver, l'amertume va arriver, et auquel cas, il faut vite stopper, quoi. Alors que là, en cette période, ça met énormément de temps. On a eu des productions où on était à 3 mois et demi de macération, parce que le citron vert était complètement figé.
D'accord.
Donc voilà, je parle du citron parce que c'est le plus facile à macérer en plus.
Il y a beaucoup de volatilité, t'es tributaire de plein de critères.
Ah oui, énormément.
Alors, par contre,
voilà, et ça c'est vraiment, et puis il faut le respecter. On voit qu'on peut pas, je me rappelle une fois l'année dernière, on avait voulu faire une production avec de la passion et honnêtement, ça l'a pas fait du tout. Donc c'était peine perdue. Il y a des choses comme ça, voilà, il faut vraiment respecter pas mal de choses.
Donc du coup, tu fabriques tes sirops.
Ah oui, voilà, je fabrique mes sirops, je fais un assemblage du coup avec mon sirop que je rajoute du coup au cognac et aux fruits, puisque déjà donc les fruits sont gorgés de cognac et non pas de sirop, c'est très important, parce qu'à partir du moment où le sirop s'assemble, là le fruit va cuire. Même s'il est froid, hein, notre sirop, c'est une remise au froid, c'est une infusion pendant assez longtemps. On a environ 6 heures de cuisson, on a une infusion pendant environ 12-14 heures et une remise au froid naturelle. Il ne faut surtout pas qu'il soit chaud pour l'assembler. Et quand on l'assemble, du coup, voilà, le fruit se met en fait à cuire tout simplement. Donc le gingembre se met à confire, le citron aussi, l'ananas se met à rôtir. Donc c'est pour ça qu'on a un côté un petit peu ananas flambé. Voilà, et la passion, elle, c'est un peu à part. Ça se diffuse vraiment, la chair se détache du fruit, enfin des graines du coup. Voilà. Et après, on filtre. On fige la saveur et une fois que c'est bien figé, parce que du coup, moi, je ne mets pas forcément en bouteille une fois que c'est prêt, parce que je me dis toujours que des cuves de 200 litres, parce qu'on travaille du coup avec 8 cuves de 200 litres. Chacune des cuves a sa... Enfin, elles sont par binôme, du coup, elles ont leur saveur à chaque fois. Donc, il y a une cuve de macération et une cuve où la saveur se fige. Et en fait, je mets en bouteille, voilà, peut-être des fois en une fois, en deux fois, mais je me dis que c'est toujours moins facile de partir avec une cuve plutôt qu'un carton sous le bras. Donc voilà, enfin c'est voilà, je préfère le laisser comme ça. Et après, par contre, la petite différence, c'est que l'hibiscus, elle, macère en dame Jeanne. On a préféré garder une macération très authentique dans des dame Jeanne en verre. Donc on a une vingtaine de dame Jeanne de 34 litres en verre, mais on travaille, du coup, bah, elle, je le fais à chaque fois par une centaine de bouteilles. Donc on est sur trois dame Jeanne de 34 litres pour faire...
Et alors donc du coup, ça représente quelle volumétrie, vous, votre prod à l'année?
Alors nous, à l'année, on l'augmente chaque année. Là, justement, je suis en train de faire mes ventes, là, justement, en état des ventes annuelles. On va être maintenant sur toujours une petite production. Hein. Nous, on est moins de 4000 bouteilles à l'année, mais on commence à s'en approcher. On demande, nous, à notre producteur, environ 2000 litres de cognac pour être un petit peu plus large. Là, surtout, l'année prochaine, on va partir sur 2000 et pour faire environ 4000 bouteilles. Ça serait l'idée.
D'accord. Voilà. Et au niveau de la distribution, donc on est principalement sur une redistribution en Dordogne ou dans toute la France?
Alors,
comment ça se passe?
Alors c'est vrai que tout au début, on était vraiment que sur la Dordogne. On est vite parti, on a vite travaillé avec des agents commerciaux un petit peu partout en France, où là, on a eu quelques points de vente. Alors on a des personnes dans le Nord-Pas-de-Calais qui vendent très bien nos produits, on a des personnes dans le Sud-Est qui vendent très bien nos produits. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est senti un petit peu, on perd des pieds par rapport à cette distribution, où on ne pouvait pas relancer. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et en fait, on est vite revenu à se dire, mais avant de partir comme ça, là, partout en France, pourquoi pas se recentrer? Pourquoi pas se recentrer déjà sur la Dordogne, Charente, un petit peu la Gironde, voilà. On va dire la Nouvelle-Aquitaine, d'en haut, quoi. La Nouvelle-Aquitaine d'en haut. C'est ça. Déjà, restons absolument locaux et puis voilà, voir un peu ce qu'il en est.
Oui, le but était de pouvoir maîtriser
complètement
là où allait l'entreprise.
Complètement. Et en fait, j'adore. J'adore parce que c'est complètement différent. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas un volume de production, mais en même temps, on ne veut pas. Ce n'est pas du tout notre idée. Mais aujourd'hui, en fait, on s'éclate à faire des partenariats. On s'éclate à bosser avec des collaborateurs du département. Et ça parle. Et les gens, en fait, maintenant, connaissent en Dordogne l'alambic, connaissent le crémois. Enfin, on va en parler après. Mais voilà, connaissent des produits et demandent des produits d'ici. Et ça, j'adore.
Alors, tu parles de partenariat. Là, on se trouve actuellement dans les locaux de chez Epic.
Tout à fait.
D'Alexandre Tardieu. Est-ce que vous avez fait un partenariat récemment? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai qu'on a fait... en fait, on était dans quasiment la même rue. Et des gens venaient me voir en me disant « Oh là là, mais vous ne connaissez pas Alexandre Tardieu de la brasserie Epic ?» Alors, c'est vrai que je connaissais deux noms. Donc, bien sûr, je m'abonne à la page et je scrolle un petit peu. Je vais aller voir un peu ce qu'il a sur son profil, tout ça. Et puis, je décide de le contacter. Et donc, en effet, lui aussi avait entendu parler de nous. On est content. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas Nous, en fait, la bière au cognac, c'était un des premiers cocktails qui est consommé avec notre cognac, en fait.
D'accord.
On le met avec le gingembre ou le citron vert. On le propose de le mettre avec une bière blanche ou une bière ambrée. Et c'est vrai que les gens adorent faire ça. Et on s'était dit, mais pourquoi pas sortir une bière comme ça? Et quand on s'est vu avec Alex et qu'on en a parlé, voilà, c'est vrai que voilà, Alexandre aujourd'hui, il propose vraiment des choses complètement différentes. Il propose de personnaliser vraiment, de créer sa bière avec ses ateliers. Il propose pas mal de choses comme ça. Et c'est top. On se retrouve dans encore ce côté un peu produit de niche, à sortir des choses un peu à part et uniques. Et...
Là, je pense que vous vous réunissez, c'est aussi sur l'idéologie et la façon d'exercer votre métier.
Complètement.
Parce qu'effectivement, on est aussi sur une petite volumétrie, mais sur quelque chose de tout à fait maîtrisé, humain, à pouvoir gérer.
C'est exactement ça.
Qui sont les acheteurs, etc. Qui sont les clients? Et tu parlais tout à l'heure aussi d'éthique par rapport à ta gamme limitée sur l'hibiscus. Mmh. Quelles sont les valeurs qu'incarne ton entreprise et qu'est-ce que tu veux défendre à travers ton entreprise?
Alors là, c'est vraiment, vraiment ce côté local. Je pense qu'il est très, très important aujourd'hui de repartir sur une consommation locale et raisonner avec des producteurs locaux, avec des acteurs locaux. Aujourd'hui, je suis très, très fière de pouvoir dire que notre travail, il est fait exclusivement sur ces bases-là. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des acteurs locaux. Nous, tout vient de Charente, Gironde et Dordogne, pas plus loin. Donc ça, déjà, c'est une fierté énorme. On sait que ça a un coût. mais on sait pourquoi on le fait. En fait, voilà, ça, et on peut
ça
le défendre.
Ça donne du sens,
oui. Ça donne du sens. Du coup, on a pu s'affilier au label Artisan Gourmand de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Dordogne. Donc, pour nous, ça, c'est une fierté. Et je n'arrête pas de le dire parce que j'en suis très, très contente. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et on pousse même un petit peu plus loin. On va recycler nos fruits. On recycle nos fruits, du coup, avec Piment et Moutarde du Périgord, qui est une entreprise géniale avec Christophe et Andrea qui font des sauces pimentées avec des piments du Périgord.
Génial.
Et ils recyclent tous nos fruits. Et donc, il y a une sauce pimentée qui s'appelle Plus un zeste avec le citron. Il va y avoir le pime green, il va y avoir le ginger. Enfin, voilà, on est sur plein de choses. Et petite sauce aigre douce avec du gingembre. Voilà. Et donc, on a vraiment zéro perte là-dessus. Et là, on est même en pourparlers du coup avec Guillaume Lafont de Croroc pour des bars pour recycler justement nos noix. Parce qu'on travaille du coup avec le Moulin de la Vessière pour nos noix.
Génial,
pour faire notre crémois. Exactement.
Ouais.
Pour faire notre crémois qui est vraiment. Alors, ça, c'est incroyable le développement qu'elle connaît, cette crème, en peu de temps. On est vraiment ravis. Ça, je pourrais vous en dire plus aussi tout à l'heure, parce que c'est encore une histoire. Voilà, parce que tout notre produit, de toute façon, est basé sur des histoires, de toute façon, histoire de vie. Et donc, voilà, une fois qu'on a fait notre lait végétal à base de noix, on a ce reste de noix, du coup, de farine de noix un peu. Enfin, c'est pas de la farine, mais c'est de la noix concassée. Et donc, on était en train de voir, on en parlait pas plus tard que la semaine dernière avec Guillaume pour du coup, recycler ça sans perte, quoi, tout simplement.
Qu'est-ce qui t'anime le plus, toi, du coup, au final, dans ce que tu fais ?
Ben c'est ça. Ce qui m'anime le plus, c'est cette. Alors en plus, moi, je suis pas du tout créative pour un sou, mais j'aime ce côté. C'est de la collaboration en fait. C'est de la collaboration. On collabore tout le temps. Il n'y a pas de concurrence. Les gens des fois nous voient comme des concurrents de tel ou quoi que ce soit. En fait, non, on est tous collègues et on s'aide de tous, même dans les spiritueux, même tout ça. Enfin. Ça, j'adore ce côté-là. Et puis après, ce qui est super valorisant, c'est de voir qu'on crée, au départ, c'est une idée. Ça peut être une bouteille qui va nous, une forme d'une bouteille proposée par Saveurglass. Nous, c'est notre producteur de bouteilles en Charente. Il nous montre de temps en temps les petites nouveautés, tout ça. On n'est pas du tout parti sur un produit. Puis là, on voit une bouteille qui nous plaît, coup de cœur. Mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Mais ça, mais si on faisait ça, et ça, et ça, et voilà. Et nous, alors c'est vrai que ce que j'adore dans notre histoire, c'est qu'au-delà d'un produit, c'est vraiment des histoires de vie. La gamme Alambic, pour moi, c'est la gamme de Jérôme. C'est vraiment cette alliance de coup de cœur et de souvenirs d'enfance. C'est vraiment les souvenirs d'enfance du sirop pour adoucir le rhum, avec le coup de cœur quand il est arrivé ici, qu'il a découvert le cognac. Voilà, c'est lui.
Parce que, rassure-nous, quand il était enfant, il ne buvait pas du rhum.
Non, il ne buvait pas du rhum. Il buvait pas du rhum. Par contre, voilà, c'était plus la cuillère qui avait touillé avec le sirop artisanal. C'était plus ça. Et lui, souvent, il me parle du bruit de la cuillère qui tourne dans le verre pour mélanger le sirop. C'est vraiment cette idée-là, en fait, qui résonne un peu quand il raconte l'histoire du produit. Et puis, moi, ça va être plutôt le crémois. Le crémois, en fait, alors moi, j'adore tout ce qui est crème de rhum, crème de whisky, tout ça. Et puis c'est vrai que, on s'était dit, mais pourquoi pas faire quelque chose sous forme de lait. Alors, ça pouvait être au départ du lait de cacahuète, tout ça. Puis là, mon mari me dit, mais non, mais t'es périgourdine, mais du lait de noix, quoi, c'est évident. Et c'est lui qui me sort le crémois. Alors, autant l'alambic, c'est moi qui ai trouvé le nom pour son produit, et le crémois, c'est lui pour, entre guillemets, mon produit, quoi. Et le crémois, mais je dis, mais à fond, mais c'est trop ça. Et voilà, et le crémois est né comme ça. Et puis, il réconcilie pas mal de personnes parce qu'il y a des gens qui aiment la crème, mais qui digèrent mal le lait animal, des choses comme ça. Et nous, en fait, on est resté à fond dans le végétal. Parce qu'on s'est dit, on travaille avec la noix du Périgord. Enfin, pourquoi après l'associer à un lait animal ? On reste dans le lait végétal. Donc nous, en fait, nos noix sont broyées dans du lait de soja, qui est un lait hyper neutre et qui a laissé place à la noix. On a essayé avec plein d'autres choses, mais alors, c'était pas possible. Et donc, avec un assemblage en bouteille directement, avec le cognac, un petit peu d'épices, voilà. Et on est à 12,6 en termes de degrés d'alcool. Donc moi, j'aime souvent dire que c'est une petite crème anglaise revisitée. C'est un petit bonbon, on est sur un Ferrero Rocher, voilà, c'est vraiment très très sympa, mais made in Périgord.
Tu disais que parfois tu étais en prise de doute, que c'était assez changeant et un peu en dents de scie ta vision et ton optimisme par rapport à l'entreprise, puisque c'est normal, hein, c'est inhérent à tout un tas de facteurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter ?
Ouais. L'année dernière, on a eu une grosse période de doute. J'ai eu une grosse période de doute. J'en ai parlé du coup longuement avec mon mari. On avait pris la décision de produire, de terminer notre stock et d'arrêter. Ouais, que JP Spiritueux arrête. Ça, c'était début d'année 2025. Notre producteur, on en parle direct à notre bouilleur de cru, donc Stéphane. On lui explique, on lui dit voilà où on en est, il nous dit pas de problème. Il nous produit, bah, de toute façon, il était en pleine production du cognac et tout, donc il nous met à disposition un volume assez conséquent de façon à écouler notre stock. On fait une belle production, je ne sais plus combien on avait fait d'un coup, je crois qu'on avait fait quasiment 1000 bouteilles ou un truc comme ça. Oh oui, même plus, ouais. Et là, en fait, bah, y avait les celliers du Périgord. J'avais eu un super contact avec, et également grâce à Marilyn du Petit Futé également, qui avait parlé de nous, tout ça, qui me rappelle, et là ils disent, bon allez, chaud, on vous distribue, enfin c'est pas on vous distribue, c'est on vous vend, parce que nous on travaille avec des cavistes, on travaille pas avec des distributeurs, donc on vous vend sur les différents points de vente du département. Et en fait, voilà, donc ça nous donne un gros coup, une grosse aide. Alors il faut savoir que, en parlant de grosse aide, on n'avait pas la trésorerie. On n'avait pas la trésorerie parce qu'on avait pas mal d'impayés. C'était très, très compliqué. C'était vraiment un flux très, très tendu. Et donc, Périgord Initiative et le Grand Périgueux nous ont énormément aidés. Alors moi, je pense que c'est des structures, que ça soit la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Dordogne, que ça soit Périgord Initiative, que ça soit le Grand Périgueux, que ça soit la ville de Boulazac. Et j'en oublie et j'aimerais ne vexer personne, mais je veux dire, je pense qu'en fait, aujourd'hui, sans eux, mais on ne serait jamais devenu ce que l'on est là, quoi. C'est là, encore une fois, enfin, nous, ce n'est pas la première fois qu'ils nous proposent une aide. On a bah, même le Crédit Agricole. Hein. Nous, notre conseillère au Crédit Agricole nous aide énormément aussi. De toute façon, ils travaillent en étroite collaboration avec Périgord Initiative. Et je veux dire, mais enfin, dès qu'on sent, en fait, qu'on relâche un peu, moi, j'en ai parlé à mon référent, M. Denis Palem de la Chambre des métiers, quand je lui dis, non, mais là, en fait, je pense qu'on part là-dessus. Mais non, on va trouver une solution, en fait. On va trouver une solution, on va faire ça, tout ça. Et là, ils nous ont débloqué des fonds, donc sous forme d'emprunt, hein, mais avec un différé en remboursement, tout ça. Et bah, ça nous a donné un second souffle, tout simplement. Et en fait, on a fait une énorme production, et ce qui fait que, bah, à la fin de l'année, on a pu vendre, on a pu réinvestir, on a pu du coup racheter des bouteilles alors qu'on voulait vider notre stock. Et en fait, on a racheté des bouteilles et voilà. Et on a sorti le Crémois alors que le Crémois, je ne savais même pas s'il allait tomber à l'eau. Enfin voilà. Et après, il y a eu la bière et voilà. C'est un gros, gros, gros second souffle. Ouais,
ouais, c'est génial. Ouais. C'est important d'entendre parler de ce genre d'expérience positive parce que le fait que l'entrepreneuriat soit soutenu et qu'il y ait des aides concrètes, c'est génial.
Ah, mais c'est exactement
localement,
ça.
Localement, ouais, il y a ouais, des, ouais. Choses, des initiatives de la sorte qui soient faites.
Et c'est pour ça que j'aime énormément en parler. Là, bah, j'ai été ravie d'être élue du coup trajectoire d'exception au féminin cette année. Du coup, un trophée. J'ai été récompensée par la Chambre des métiers et de l'artisanat justement en ce sens. Et je veux dire, mais quand on parle de trajectoire d'exception, mais en fait, c'est juste ça, quoi. C'est que l'artisanat français, c'est une trajectoire d'exception. Mais aujourd'hui, sans des acteurs comme ces structures-là, comme ces organismes-là, qui vous portent, qui vous mettent en lumière, qui vous aident au quotidien, mais on ne serait rien. Moi, je sais que, honnêtement, jamais on n'aurait trouvé une force à être ce que l'on est aujourd'hui, quoi. Enfin, la force pour arriver là.
Et alors, pour finir, parce que tu n'es pas sans savoir que ce podcast s'intitule Boss Lady, qu'est-ce que ça signifie pour toi être une Boss Lady ?
Alors, une Boss Lady, moi, je pense que c'est toutes les femmes qui gèrent leur vie, en fait. En fait, une Boss Lady, c'est même pas que professionnel pour moi. Je pense que c'est... Y a des mamans, mais c'est des Wonder Boss Lady, en vrai, quoi. C'est vraiment ça. Et voilà, c'est une femme qui s'écoute, qui suit son chemin, qui suit ses envies, qui doute, qui rebondit, qui réussit ou pas, qui se loupe, mais voilà, ouais.
Mais qui ose.
Mais qui ose, ouais. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Peut-être un petit peu de sérénité, ce serait bien. non, parce que ça aussi, ça fait partie de l'histoire aussi. Non, que ça continue comme ça, longue vie, AJP spiritueux, plein de créations, plein de partenariats locaux. Voilà, ouais, je pense que ça, ouais.
Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes celles et ceux qui voudront acheter tes produits ?
Alors, sur les événements locaux, j'aime bien dire ça aussi, sur les événements locaux, bah, souvent faits par la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, tout ça. Donc, soit ça sera moi, soit ça sera Alexis sur le département, parce qu'on a un petit peu agrandi. Ça, c'est le petit, je casse ça aussi, c'est le côté un peu sympa aussi du truc. J'ai deux petites mains qui sont venues m'aider vraiment dans le côté brand ambassadeur sur les événements. Donc, tout ce qui est voilà, salon, tout ça, marché des producteurs cet été, tout ça, à fond. On va vraiment développer ça. Sinon, après, localement, on va être dans les caves de Périgueux, on va être un peu partout dans le département, sur des cavistes, des restaurants plus gastronomiques, bistronomiques.
Tu fais de la vente en direct ou pas du tout ?
Alors, je ne fais pas de vente en direct, non, sauf sur les événements. Non, non, je ne fais pas parce que vraiment, on s'occupe de la production et honnêtement, je trouve que c'est tellement bien de travailler avec les cavistes. Voilà, ça, c'est un contact que j'adore vraiment. Hier encore, j'étais à Astoria, à Marsac, on vient d'intégrer le restaurant, c'est une énorme fierté. Enfin, voilà. Ah oui, et vous pouvez aussi nous retrouver, donc là, je vais le publier prochainement à Lascaux. On a intégré Lascaux.
Génial.
Ouais, génial. Bah, voilà, pour nous, c'est très représentatif. C'est une merveilleuse vitrine, une vitrine vraiment historique. Préhistorique du coup, mais voilà, pour nous c'est ouais, c'est une grosse fierté, donc vous pouvez nous retrouver aussi là-bas, ben, au Cellier du Périgord, voilà, pas mal de petits points, mais vous retrouvez les points de vente sur le site internet.
Bon, et je ne manquerai pas de mettre le lien en description pour vous dire, moi j'ai déjà eu l'opportunité de goûter les différents alambics de Jennifer, qui sont délicieux, voire excellents. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'elle ressemble un petit peu à Eva Longoria. Donc, si ça peut vous pousser à venir consommer ces produits, n'hésitez vraiment pas.
Merci beaucoup. Merci
beaucoup. Merci, Jennifer.
Merci à toi, surtout.
À très bientôt.
À bientôt.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.